Bonjour, Annelle.
Un des dossiers qui a beaucoup fait jaser en première moitié de saison, c'est celui des gardiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le plan, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Et en sous-question à ce moment-ci, est-ce que Samuel Montembeau demeure le gardien numéro 1?
On sait que trois gardiens n'est pas idéal. J'attendrai pas un changement dans les prochaines 24 heures. De toute façon, on joue, je crois, 5 matchs en 7 jours. Alors, on n'est pas inquiète au niveau de les gardiens d'avoir l'action, mais idéalement, on n'aura pas trois gardiens à long terme. Puis au niveau de gardien numéro 1, moi, j'ai toujours cru que... J'aime pas donner des chiffres ou des têtes à des choses. Je pense que les gardiens qui jouent le mieux joueront le plus. C'est ce qui est arrivé quand Sam est arrivé ici, puis il a gagné le poste. Je pense qu'à un moment donné, Jake aura probablement été le gardien. Mais Sam est arrivé, puis il a très bien joué. De toute façon, je dirais que Sam, ça fait deux très bons matchs, puis on n'a jamais été inquiète qu'il a oublié comment jouer au gardien. C'est juste qu'il y a une mauvaise séquence, puis on est content puis confiant qu'il a regagné sa forme.
Martin McGuire et Jonathan Bernier.
Quand Forleux est encore très jeune,
oui.
C'est un marché qui n'est pas facile pour les gardiens, surtout quand ça se met à aller moins bien pour le gardien, parce que les saisons ne sont pas toujours parfaites. Est-ce qu'en ce sens-là, dans l'évaluation que vous faites, le peu de métier qu'il a est un élément important dans les décisions que vous allez prendre, éventuellement, parce que tu viens de dire que ça ne sera pas éternel, trois gardiens?
C'est sûr que dans l'été, le plan était que Fowler jouera la plupart de la saison dans la Ligue américaine. On sait toujours avec les blessures ou des choses comme ça qu'il y avait la possibilité qu'il jouerait des matchs à Montréal. Au niveau d'un marché difficile, c'est sûr qu'on va toujours être prudent puis essayer de protéger un jeune gardien comme Fowler. Mais en même temps, je dirais que il y a une certaine côté mental, son approche, et il n'a pas l'air d'un jeune de tout. Il est très, très mature, puis il rebondit. Même quand il a fait l'erreur en arrière du net contre Philadelphie, j'ai vu des séquences dans le midi après quand les gens l'ont demandé, puis je pense qu'il a répondu de la bonne manière. J'ai joué au gardien toute ma vie, j'ai pas fait cette erreur souvent, je m'attends pas à le faire encore. Alors, tu vois qu'il y a une certaine force mentale. Qui va l'aider dans le futur.
Jonathan.
Salut, Jonathan.
Bonne année.
Vous aussi.
Pendant l'été de la saison, il était souvent question d'essayer de trouver un deuxième joueur de centre pour appuyer Nick Suzuki. De la façon dont le deuxième trio va avec Lindell, Kapanen, Slavkovski, est-ce que le mandat n'est pas devenu d'essayer de trouver peut-être un allié de premier trio? Le deuxième trio va très bien, le troisième trio, c'est une certaine stabilité.
C'est difficile question de répondre dans le sens que quand tu parles de mandat, est-ce qu'on parle de cette année ou est-ce qu'on parle de la future de l'équipe? On croit qu'on a beaucoup de talent qui s'en vient aussi. Au niveau de cette année, est-ce qu'il y a la possibilité qu'on ajoute un joueur pour aider le top 6? Probablement trop tôt pour répondre à cette question. Mais on est toujours ouverte à des moyens. Je pense que je l'ai dit, vous êtes probablement fatigué d'entendre la balance entre aujourd'hui et la future, mais on va regarder tout, mais toujours avec cette balance en tête.
Est-ce que Kirby Dyke pourrait être le joueur qui remplirait ce rôle-là et où est-ce qu'on en est avec la réadaptation de Kirby quand on a passé l'échéancier?
Kirby pourrait être. Il y a eu des bonnes séquences avec Nick puis Cole dans le passé, mais c'est quand même une question plus pour Martin puis quand Kirby sera de retour au jeu. Au niveau de son réadaptation, on va être très prudent avec lui, vu que c'est sûr c'est une blessure au cheville, mais c'est au même jambe que son genou. Alors, toute chose égale, on va être prudent, très prudent avec lui, avec son retour, parce qu'on veut que quand il revient, c'est pour la saison.
Alexandre Gaston.
Salut, Ken.
Salut, Alexandre.
Ça va bien?
Oui, vous?
Oui, merci. Ça c'est fait. On passe à la deuxième question. Si tu compares à l'année dernière, évidemment, vous avez fait beaucoup de chemin à peu près à ce temps-ci de la saison. Ce serait quoi? Où as-tu vu ton équipe s'améliorer le plus durant cette année-là, ou particulièrement depuis le début de l'année? Et c'est quoi le principal chantier à venir? Là, où elle doit s'améliorer particulièrement dans les prochains?
Je crois que, probablement, si j'étais pour être vraiment spécifique, c'est comment qu'on défend dans la zone neutre. Beaucoup plus ça que dans la zone défensive, parce que je pense qu'il y a eu plus d'efforts là-dessus l'an passé. Au niveau d'amélioration, moi, je crois que ça change de semaine à semaine, du mois au mois. Je pense que, pour comme donner un exemple, le power play, je pense qu'on est 7e ou 8e dans la ligue, mais on vient de passer une séquence où ça ne fonctionnait pas avant le match à Dallas. Alors, je pense pour les coachs, c'est toujours une question de, on dit en anglais, plug one hole and another pops. Alors, ça, c'est la vie d'un coach, ça, c'est la routine d'une équipe dans la Ligue nationale. Mais on voit, il y a une maturité dans l'équipe, les décisions qu'ils prennent. C'est probablement plus que d'autres choses, c'est ça. C'est pas nécessairement au côté système. C'est la maturité de lire le match puis prendre des décisions en fonction de où on est rendu dans cette match. Si on mène par, comme Slaff l'autre jour, il y a eu tout un match contre Dallas. Mais il y a un moment donné, je pense qu'il y avait la bataille dans le coin pour ça sentait comme 10 minutes. Il prend la rondelle, puis il fait une passe par en arrière, en avant du net. Puis on menait par un but, puis on vient d'avoir passé une bonne séquence dans la zone défensive. J'ai vu dans sa face qu'il savait que c'était pas le bon jeu tout de suite après. Alors, c'est des choses comme ça. C'est juste la maturité d'une jeune équipe.
Jean-François Chaumont et Alexis Bélanger-Champagne.
Salut, Ken.
Salut, Jeff.
Joe, tu parlais tantôt de ton deuxième trio. Quand vous regardez l'évolution de l'hiver Capanen, seulement 22 ans, est-ce qu'il peut un jour remplir cette chaise-là d'être un bon deuxième centre dans l'Ligue nationale, selon la progression qu'il y a eu au cours des derniers mois?
Oui. Sans aucun doute.
Qu'est-ce qu'il peut voir que oui, c'est vous-même surpris de son amélioration cette saison?
Oui et non. Je croyais. Honnêtement, je croyais qu'il y avait les moyens, le potentiel de l'être. Il est vraiment, je pense, pour apprécier Oliver, il faut lui regarder sans la rondelle, défensivement et offensivement. Des fois, qu'est-ce qu'on voit quand tu regardes le match, c'est qu'est-ce qu'il fait quand il reçoit la rondelle. Souvent, on voit qu'il reçoit la rondelle dans des places pour scorer, mais c'est qu'est-ce qu'il fait pour se rendre là, pour lire le jeu sans la rondelle, puis... Puis c'est aussi les détails qui amènent défensivement. On voit la manière, il a beaucoup aidé des avantages numériques depuis qu'il a été mis en désavantage avec les blessures qu'on a eues. C'est un joueur très intelligent, puis c'est un joueur, si tu suis son progrès depuis qu'il est repêché, il y a toujours un progrès. C'est pas son trajectory?
Trajectoire,
c'est pas comme un roller coaster, c'est plus steady. Salut, Alexis.
Par rapport à cet été, il y avait été question de départ de plusieurs vétérans. Je pensais qu'il y a eu une blessure cet automne, mais vous êtes allé finalement chercher Philippe Dano à la fin du mois de décembre. Est-ce que sans les blessures, c'est un problème que vous auriez eu à régler quand même? Et est-ce que vous voyez l'arrivée de Dano comme une solution qui peut avoir un impact un peu comme Carrier l'année passée, où ça stabilise un peu le tout d'avoir plus d'expérience?
Oui, je dirais que l'échange pour Philippe Deneau n'était pas nécessairement une fonction des blessures, plus une fonction du besoin. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît pour, connu pour son défensif, connu pour ses face-offs, connu pour le désavantage numérique, centre gaucher. Alors, il répondait à beaucoup de besoins à court terme pour nous. Puis, on a décidé qu'au niveau de cette balance, que ça valait le choix qu'on a donné à Los Angeles pour l'avoir de retour. Puis, on l'a vu en plusieurs moments importants déjà, même juste pour gagner une... mes garçons ont joué à la cross quand ils étaient plus jeunes. Puis, au départ, je disais toujours... Je revenais pas qu'il y avait une position juste pour prendre des face-offs. Mais l'hockey devient de plus en plus un match, un jeu de possession. D'avoir quelqu'un qui gagne au rythme que Phil gagne, c'est vraiment important.
Il y a, je comprends qu'en matière de blessures, beaucoup de choses peuvent changer d'ici le retour des Jeux olympiques, par exemple, mais en santé, il y a énormément d'attaquants qui ont prouvé qu'ils pouvaient jouer sur une base régulière sur mon line-up, 16, 17 gars peut-être. La quantité, si on imaginait un line-up qui est en santé, quel défi ça représente de gérer la quantité de joueurs qui sont à votre disposition, puis quel défi ça représente aussi au point de vue salarial de faire fitter tout ça quand on a un alignement avec un peu plus sensible?
C'est sûr qu'on a des limites au niveau de roster. On est permis 23. Alors, de toute façon, si jamais on tombe en santé, on aura des décisions à prendre. On n'est pas inquiète au niveau du cap. On est capable de garder tout le monde. C'est sûr, si on ajoute quelque chose, ça peut changer des choses. Le défi, premièrement, j'aimerais avoir ce défi d'être en santé, mais si on regarde autour de la ligue, puis on regarde la cédule, c'est vraiment difficile de planifier pour une équipe complètement en santé. Mais si jamais on est si chanceux, on aura des décisions à prendre, puis on le prendra avec les coachs au niveau de comment ils verront l'alignement.
Y a-t-il un changement sur son pronostic?
Non. Mais je dirais que c'est... moi, quand je parle avec l'équipe de le medical staff, je parle toujours en généralité, pas en spécifique, parce que ça change. On veut savoir que le joueur soit disponible dans deux jours, une semaine, puis ça devient deux semaines. Mais je pense que Patrick est on time de qu'est-ce qu'il planifie pour lui.
Bonjour Simon.
Dans la continuité de ce que vous venez de discuter, j'ai juste une petite précision sur la question de Joe plutôt que de Kirby Doc. Est-ce que là, il aurait dépassé ce qui avait été planifié du 4 à 6 semaines? Est-ce que vous l'attendez bientôt ou c'est comme un peu dans les airs présentement?
Moi, je pensais que c'était pas 6 à 8 originalement pour Kirby.
4 à 6.
Oui, on, je sais même pas à quel point on est rendu. Est-ce qu'on était à 7? 7? Je pense pas que c'est long pour Kirby, mais comme j'ai dit, on va être super prudent avec lui. Même avec Goulds, on va être prudent avec lui. S'il était en série, peut-être qu'on serait en mesure de leur faire retourner au jeu plus tôt. Mais avec toutes les blessures qu'on a vécues à date, je pense qu'on est mieux d'être prudent. On a assez de profondeur au niveau de, comme Marc-Antoine a dit, au niveau de le nombre de joueurs capables de jouer. Alors, je ne veux pas forcer les joueurs et puis risques qui ne sont pas à 100%, spécialement Kirby.
En suivi ce que vous avez dit comme sur Patrick Laine, donc s'il suit son timeline, ça pourrait apparaître peut-être avant les Jeux, peut-être juste après. À quel point c'est un défi pour vous de planifier de réintégrer un gars comme ça qui est très high profile, mais qu'il
n'y
a pas de place évidente dans ton
line-up
présent?
Un défi, premièrement, high profile or not, pour moi, ça change rien. On est une équipe, on doit essayer de mettre une équipe sur la glace capable de gagner à chaque match puis de nous emmener le plus loin possible. Au niveau de la construction de l'alignement, quand on est en santé, ça va être un défi pour tout le monde. spécialement Martin, pour dire, OK, je veux avoir ce type d'alignement, je veux avoir une ligne comme ça. Alors, c'est un peu un... Comment on dit, puzzle? Casse-tête? Ah ouais. C'est un peu un casse-tête. Puis j'espère qu'on va être en mesure d'avoir à gérer ça, parce que ça veut dire qu'on est en santé.
Marc
Defoy
et Mathieu Hénard.
Tu parlais de Hudson tantôt. Tu disais que quand tu l'as repêché, c'est le cas de bien des gars de deuxième, troisième tour. Il y a des shortbets, après ça, les autres, on ne sait pas trop. Mais quand tu penses-tu que c'est votre meilleur coup au repêchage? Tu penses, quand tu vois le joueur qui est devenu, là, il y en a qui vont dire, tout facile à dire après, parce que là, il est bon. Mais est-ce que vous pensiez qu'il... Ben, pensez-vous qu'il deviendrait aussi bon?
Au temps du repêchage?
Oui.
Non. Non. Mais...
Qu'est-ce qui avait motivé votre décision? Parce que qu'est-ce qu'on attendait? Ah, il est petit. Il est petit. Tout ce qu'on attendait. Mais quand tu la regardes aujourd'hui, tu devais être fier de cette prise-là.
Oui, c'est sûr qu'on est fier. On est chanceux. Premièrement, on doit donner le crédit parce qu'on est en train d'avoir nos réunions avec nos dépisteurs. Puis je pense que l'équipe de dépistage ont fait depuis 4 ans que je suis ici tout un job à évaluer les joueurs. Puis c'est pas une tâche facile. Avec qu'est-ce qu'on a puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est sûr que ils ont fait tout un job. Les pros aussi, les dépisteurs de pros, mais nos dépisteurs dans l'ensemble ont fait... ils nous font notre job plus facile.
On parle de jeunes. Il y a Michael Hayes qui a joué le championnat du monde. D'après vos informations, c'est quoi? À quoi on peut s'attendre de lui? Est-ce qu'il va mettre fin à sa carrière universitaire cette année ou il y a une intention de continuer?
J'ai aucune idée. C'est quelque chose qu'on discutera dès que sa saison est terminée. C'est sûr qu'on voudra qu'il soit dans le moment avec son équipe à Michigan comme j'étais à Minnesota pour lui voir jouer. J'ai vu 3 matchs de lui, mais j'ai pas parlé avec lui. Je veux pas lui déranger. Nous autres, de notre côté, on lui suit pour être en mesure de prendre la décision quoi qu'il est prêt. De là, c'est vraiment à lui à déterminer est-ce qu'il pense qu'il est prêt, est-ce qu'il veut continuer à l'école pour une autre année, est-ce qu'il veut commencer sa carrière professionnelle. C'est des décisions. J'imagine qu'il pense à ça un peu lui-même, mais on ne voudrait pas ajouter à ça au niveau d'une distraction.
Vous autres pensez qu'il est prêt? Ça, vous pensez?
On pense qu'il va dans une bonne direction pour qu'il soit prêt, mais j'aimerais prendre cette décision qu'on doit le prendre.
Vous avez glissé un mot sur Slavkovski un petit peu plus tôt tantôt. À quel point de passer du premier trio au deuxième trio, ça a été bénéfique pour lui?
Je sais pas à quel point. Je pense qu'il doit avoir un certain aspect que Slav, en jouant avec 2 jeunes, sent comme le vétéran. Puis avec ça, il y a une certaine pensée que c'est ma responsabilité de les emmener. Mais Slav a travaillé beaucoup aussi au niveau de son jeu individuel. Qu'est-ce qu'on voit de lui, c'est qu'il joue beaucoup plus vite. On a toujours vu j'ai vu les commentaires de Martin que le jeu ralentit pour lui. Mentalement, oui, mais je trouve que c'est parce qu'il patine beaucoup plus. Alors, si la première option n'est pas là, il y a une deuxième et une troisième parce qu'il est toujours en mouvement. Alors, c'est vraiment le changement qu'on a vu de lui. Puis c'est comme... Ça doit avoir... Comment est-ce que je pourrais dire... Il l'a fait comme d'autres. On le voyait avant un match sur 4 ou 5, mais il y avait un point, je ne peux pas le mentionner exactement quand, où il l'a fait pour le match au complet, puis il est revenu, il l'a fait encore. Il a fait un 3e match, puis c'est comme the light switch went off pour lui. Puis remarque, c'est vraiment ça qui l'aide à augmenter son jeu, puis on est très content de sa progression. Très, très content.
Une petite dernière, est-ce que tu étais surpris de ne pas voir Mane Hudson et Cole Caulfield avec l'équipe américaine?
Je vois tous les débats au niveau de l'équipe américaine, l'équipe canadienne, puis les autres équipes aussi, Suède. J'ai même pas essayé de me mettre dans les souliers des gérants des autres équipes. Je peux juste vous dire qu'on est très contents qu'ils sont avec nous.
Maxime Sarrazin. Salut, Maxime. J'aimerais t'entendre sur la progression d'Ivan Demida. Est-ce que actuellement, sachant qu'il est sur un pace pour peut-être être une recrue de l'année potentielle dans la Ligue, est-ce qu'il est à la hauteur des attentes que vous aviez ou est-ce qu'il les surpasse actuellement?
Je peux pas vous dire qu'il a dépassé nos attentes. Quand je pense d'un joueur, peut-être c'est toujours plus le gérant comparativement au coach, mais moi, je pense plus à sa carrière que la première année. On attendait que Ivan serait un joueur très important pour nous depuis qu'on l'a repêché. On est très content. C'est pas facile quand tu déménages de l'autre côté du mer, puis dans un pays très différent, puis il y a des ajustements à faire socialement, puis tout, puis tu laisses ta famille en arrière. Alors, avec tout ce qu'il a géré hors d'hockey, pour lui d'avoir le succès qu'il a, c'est impressionnant.